Gamer Story avec Philippe Aubert Côté.
Alors, on entend ici la musique du jeu vidéo de Rest of Us. Ça dit quelque chose, ça, mon cher Philippe Aubert?
Parce que même si je suis un nerd là, pour bien des gens, là, moi puis les jeux vidéo, ça fait deux. J'aime autant les jeux vidéo que les films de mort-vivant.
Oh boy, ça, ça en fait deux, hein? Ouais. Alors, quand je t'ai demandé de parler des jeux vidéo, parce que beaucoup de personnes de nos communautés s'adonnent aux jeux vidéo, j'ai pensé à toi, mais finalement, c'était pas ta tasse de thé.
Non, eh bien, écoute, Danny Martin, là, moi, je suis un vieux crouton là, du siècle dernier. Je me souviens quand j'étais
petit. Attends, là, je suis pas mal plus vieux que toi, là.
Ah, mais d'après, tu vas voir, pour certains, je suis le crouton du crouton, là. Tu sais, c'est que moi, j'ai connu Mario Bros au début. On se déplaçait de gauche à droite. Seulement, il y avait juste une histoire, il fallait toujours aller à droite. C'est comme la politique en ce moment, là, tout à droite. Puis là, après ça, la légende de Zelda est arrivée. Là, on pouvait se déplacer. Waouh! En haut, en bas, à gauche, à droite, parce que l'image était vue du dessus. Hey, moi, c'était une révolution, là, pour moi, là. Ça, c'était high-tech, là, les enfants, là. C'est pour dire. Moi, c'est là que mon initiation aux jeux vidéo s'est arrêtée. C'est dans le couple, c'est mon chum Francis qui est bon des jeux vidéo. Il achète des vieux jeux vidéo chez Retro Montréal. Pour moi, je m'attends toujours à ce que ce soit des vieux jeux, mais ils sont plus avancés que ceux auxquels j'ai joué. Donc,
es-tu en train de me dire qu'il y a plus nerd que toi dans ton couple?
Un peu.
Si Francis vous écoute, je vais être dans le trouble. Alors, les personnages queer dans les jeux vidéo.
Oui. Ce qui est intéressant, bien, comme tu disais, pour la communauté LGBT, les jeux vidéo sont assez importants, mais dans les jeux vidéo eux-mêmes, ça a pris quand même beaucoup de temps avant que les personnages queer soient représentés. Hein, j'ai fait une petite recherche. Première occurrence, c'est 1986, un jeu qui s'appelle Moon Miss, où il y avait une artiste lesbienne. Mais il fallait le savoir, il fallait creuser dans les détails, tout ça. Les personnages LGBT étaient là, mais c'était souvent des pervers, des méchants ou des personnages comiques qui servaient de l'union, qui n'étaient pas dans la vedette. T'sais. Ça a pris il a fallu en 1999 pour que, dans un jeu de simulation virtuelle, on permette une première relation saphique, un premier baiser lesbien qui est un accident. Le programmateur ne savait pas qu'il n'avait pas le droit, mais il y avait un bug dans l'intelligence artificielle qui lui a permis de mettre un baiser saphique. Et là, ça a été présenté dans un congrès, puis les gens ont fait « Hein, qu'est-ce que c'est ça? » J'en avais entendu parler à l'époque, puis je m'étais dit « Ben, c'est quoi l'intérêt? » C'était plus important qu'on le pense comme événement.
Alors, les jeux vidéo, c'est une histoire queer-friendly, oui ou non?
Je t'aime, moi non plus, amour-haine, on peut dire ça. Au début, il y avait beaucoup de réticence à en mettre. Il a fallu beaucoup de petits combats, de petites percées, de petites audaces à gauche, à droite pour qu'il y ait de plus en plus de personnages LGBT qui soient introduits, de plus en plus d'intrigues aussi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu que dans les débuts, évidemment, parce qu'il y a des programmateurs LGBTQ+, qui sont entrés dans l'industrie puis qui ont dit, maintenant, on va mettre des personnages comme nous. Et il y a aussi des jeux vidéo qui se sont... la production s'est démocratisée. Beaucoup de gens ont commencé à produire leurs jeux aussi, ce qui a augmenté l'offre un peu. Puis aujourd'hui, on a le choix, même s'il y a encore du travail à faire. J'ai regardé quelques exemples, mais Ubisoft Montréal a déjà produit un jeu qui s'appelle Rainbow Six Siege. Excusez-moi mon accent anglais formidable. Qui met en scène une femme trans. Il y a des Baldur's Gate, qui est un jeu de fantasy, Donjons et Dragons très connu. Mass Effect, un jeu de science-fiction très connu, présente des personnages et des intrigues queer. J'ai même trouvé une petite curiosité. Des développeurs indépendants qui travaillent sur un jeu, on peut juste trouver la démo en ligne, mais ça s'appelle Bonfire, et c'est un jeu qui met en scène juste des orques comme dans Seigneur des Anneaux, mais il y a des intrigues gays. Ils font de la magie, mais ça passe par le sexe. Il faut qu'ils résolvent des énigmes, mais ça passe vraiment par la sexualité, puis pour réussir des rituels magiques. Donc, c'est très niché comme produit, mais on retrouve ça aussi aujourd'hui. Et on retrouve aussi un tas de jeux éducatifs. J'ai trouvé le cas de Chad Como, un jeune Acadien qui avait développé un jeu de simulation LGBT pour sensibiliser les hétéros à nos problématiques.
Ah bon, donc je ne sais pas si ça a été populaire, ce jeu-là. Hein?
Non, ça a peut-être... on en a parlé peut-être un peu à l'époque, mais il y a encore du travail à faire, c'est sûr.
Mais justement, allons-y sur ce travail à faire.
Parce que, selon certaines études, il y aurait juste encore 2% des jeux vidéo qui proposent des personnages et des intrigues LGBTQ+, ce qui est très peu, alors que le public est très diversifié. Et on reproche aussi qu'au niveau de diversité, les personnages LGBTQ+, par exemple, vont souvent se limiter à des prostituées mâles avec lesquelles le joueur peut avoir des relations sexuelles dans des scènes à part de l'intrigue. Donc, il y a encore...
On a encore des rôles de vilains ou des rôles marginaux. Exact. Bien que le travail du sexe, ce n'est pas un problème, on s'entend, exact. Mais quand même...
Il y en a plus qu'avant, mais il y a encore beaucoup de vieux clichés qui persistent. Et ça, c'est au niveau du contenu des jeux. Au niveau des communautés, il y a encore certains problèmes aussi. Quand on met beaucoup de l'avant des personnages LGBT, surtout comme héros, héroïnes, mais des fois, il y a des communautés de joueurs qui peuvent se plaindre. Ils peuvent faire des campagnes de dénigrement en ligne. Aussi, il y a des producteurs qui peuvent être frileux à mettre des extensions pour des personnages LGBT dans leurs jeux parce que dans certains pays, ils vont se faire bloquer. Mmh. La Russie, pour ne pas la nommer, par exemple.
Tout à fait, tout à fait. Donc, si l'histoire passée et actuelle des jeux vidéo n'est pas toujours ce qu'on appelle « queer-friendly », l'amour des personnes queer ou LGBTQ+, pour ces jeux-là, ben ça, c'est vraiment intense, hein?
Vraiment intense. Il y a des études, ça m'a étonné, qui montrent que auprès des jeunes personnes LGBT, 80 % des jeunes LGBT jouent aux jeux vidéo, et c'est même beaucoup plus que chez les hétéros, où la proportion serait 70 %. Ça, c'est un élément qui m'a surpris.
Je te fais une parenthèse. Ouais. Ça m'arrive d'aller sur Grindr, je ne dirais pas trop fort, puis souvent, on me demande si je suis « gamer ». Puis la première fois que j'avais vu le mot « gamer », c'était G-A-Y. Je dis « ben oui, j'ai pas compris ce que ça voulait dire ».
Non, il faut dire dans ce cas-là,
okay, c'est autre chose. Okay, c'est autre chose.
et ça peut s'expliquer, cette passion-là, mais outre le fait qu'il y a beaucoup plus de nerds qu'on pense. Là. Les nerds, on contrôle le monde, là, mais enfin, il ne faut pas le dire à voix haute. Outre ça, il y a deux raisons qui expliquent cette popularité-là chez les personnes LGBT. D'un, c'est que souvent, les jeux vidéo sont une occasion de découverte pour les jeunes LGBTQ+. Surtout les jeux de simulation qui nous permettent de créer des intrigues, des avatars. Selon nos goûts, ça nous permet des fois pour les gens de tester leurs préférences sexuelles puis de voir si ça les branche ou pas. Mm-hmm. Donc, ça remplace un petit peu ce que l'Internet a fait quand... Dans mon jeune temps, parce que moi, je suis assez croton du croton pour me rappeler quand l'Internet est arrivé, puis que là, on commençait à voir des choses un petit peu osées sur Internet, bien là, on se dit « Ah, oh, tiens, on commence à voir ce qui nous branchait ou pas. » Donc, les jeux vidéo tiennent ce rôle-là aussi. Mais ça peut tenir aussi, plus que de découverte, un rôle de construction de l'identité. Les jeunes queers se construisent des avatars comme ils veulent, avec l'apparence qu'ils veulent, les cheveux qu'ils veulent, tout ça. Et ils vont, après ça, peu à peu, incorporer les caractéristiques de leur avatar à leur vie réelle pour s'épanouir et faire leur coming out. Des fois, c'est un prélude au coming out même.
Quand même.
Donc, un constat, c'est surprenant. Et ça nous fait poser une question. Est-ce que le jeu vidéo peut être un aide au coming out? Est-ce que ça peut être à l'épanouissement des personnes LGBT ou même un outil thérapeutique? Certains se sont posé la question. Mais ça serait plausible.
Alors, on va tout de suite à la prochaine, parce qu'on arrive à la fin, là, mais... Ouais. Pour que ça marche, il faut que les jeux vidéo proposent des modèles qui interpellent les concepteurs et les conceptrices de l'industrie et l'industrie à leur responsabilité. Qu'est-ce que ça implique là, pour la suite des choses?
Bien, ça implique, c'est ça, c'est que comme les entreprises, les jeux vidéo ont un effet sur nos communautés et que l'industrie a les mains sur cette production-là, est-ce que ça leur donne une responsabilité? Certains vont dire oui, surtout les programmeurs LGBT vont dire on doit multiplier les modèles, on doit permettre aux gens de se reconnaître dans nos personnages. D'un point de vue purement transactionnel, ça peut se justifier parce que 80 % des jeunes LGBT qui jouent aux jeux vidéo, beaucoup plus que les hétéros, c'est intéressant pour les compagnies.
Ouais.
Et là, certains vont être quand même un peu réfractaires. Hein? Juste pour Assassin's Creed, une version d'Assassin's Creed, pour avoir un personnage féminin comme personnage principal, ça a été une concession arrachée de justesse. Mais là, pour les personnages LGBT, il y en a qui vont avoir de la misère dans l'industrie en disant « ça va restreindre notre liberté créative ». Je peux comprendre en tant qu'auteur que de vouloir se faire imposer comme des canevas, des types de personnages ou d'intrigues dans un but éducatif ou social, ça peut faire peur, mais ça peut être aussi une occasion d'enrichissement parce que en multipliant la diversité, on multiplie les intrigues. Ça peut être très, très enrichissant pour, sur tous les sens du terme, là, au niveau argent, c'est sûr, mais ça peut être très enrichissant donc pour les producteurs de jeux vidéo d'aller dans cette direction-là, pardon.
Puis de toute façon, il y a tellement de personnes queer dans l'industrie.
Exact. Il y en a de plus en plus, même si c'est une industrie qui est très difficile pour toutes sortes de raisons, mais elles sont de plus en plus présentes, elles sont de plus en plus à l'aise. Donc, je pense que la suite des choses va être très intéressante. Ça va être à surveiller.
Merci beaucoup, Philippe Aubert-Côté, puis on se revoit la prochaine saison.
À la prochaine saison. Merci beaucoup.
Merci.